There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at PlushCare.com/weightloss. That's PlushCare.com/weightloss. PlushCare.com/weightloss.
L'Entertainment Lab by Newton Studio, c'est le podcast 100% Brain Entertainment. Créatifs, responsables de marque, directeurs de plateformes technologiques, Pure Players Entertainment et Communicant 3.0 nous partagent leur point de vue sur l'avenir des marques et du divertissement à l'ère digitale. Ce podcast est animé par Alexis Ferber.
Bonjour à tous, je suis ravi d'accueillir Hervé Bloch, qui est fondateur des événements Les Big Boss, mais également président de la société Business & Co. Bonjour Hervé.
Bonjour.
C'est un plaisir de t'avoir pour ce podcast. Bah, Les Big Boss, c'est un événement emblématique que tu as créé déjà il y a 10 ans. Comment t'en es, pour te connaître un peu mieux, avant d'en arriver à tout ça, c'était quoi les grandes lignes finalement de ton parcours?
Alors, déjà Les Big Boss, moi j'ai 47 ans, ça remonte de bien plus longtemps. Je dirais que Les Big Boss, ça a 60 ans. Alors pourquoi ça a 60 ans?
Bonne accroche.
Il y a 60 ans, mes parents se sont rencontrés au Club Méditerranée. Ils se sont mariés, ils ont eu 3 enfants. Et le Club Méditerranée est vraiment inscrit dans mon ADN. C'est mes premiers émois, c'est mes premières vacances d'enfants, d'ados, d'adultes, etc. J'ai beaucoup observé, j'ai beaucoup admiré. Et ce que j'admirais le plus, c'était le chef de village. Chef du village, c'est un mec assez sportif, une trentaine d'années, qui dirige 100 GO et qui arrive toutes les semaines.
C'est le GM, hein, comme on dit dans le jargon.
Alors le GO, gentil organisateur, c'est le staff, et ouais, gentil membre, c'est les clients. Ouais. Et donc, il a son équipe GO, il est chef de village, il a tous les jours, toutes les semaines, 1000 vacanciers différents. Et il arrive à prénommer tous les gens qui croient.
Oui, ça c'est fort. Ça.
Et moi j'étais toujours impressionné. Et voilà, donc ça c'est.
C'est la technique Jacques Chirac. Hein. Tu sais, c'est ce qu'il disait. Hein. La force, c'est de connaître le prénom de chaque personne.
Bah, exactement. D'ailleurs, Jacques Chirac, on est né le même jour, le 1er décembre, on est Sagittaire tous les deux. Et donc voilà, donc ça c'est une première émanation, une première origine. Alors bien sûr, pas que ça. La deuxième origine, c'est que moi je suis très très business. Je suis rentré dans le digital en 99. J'étais un bébé du digital. J'ai connu Aquarelle, Auckland, Ibazar, Allociné, donc toutes ces premières start-up du digital. J'ai grandi avec eux et j'ai travaillé chez des prestataires pendant une quinzaine d'années. Et donc, j'ai consommé des salons. Je consommais des événements qui permettaient de générer du business.
Un peu partout, sur du francilien, voilà.
Et j'étais jamais satisfait. Bon, on nous donnait accès à des inscrits d'une conférence, mais c'était des Gmail, des stagiaires, des étudiants. On attendait dans des stands, et puis c'était pas les bons profils qui arrivaient dans les allées. Et donc, au fur et à mesure, j'ai forgé ma conviction et j'ai considéré que quoi de mieux que d'être servi par soi-même et de créer son propre événement. Donc, j'avais cette inspiration Club Med. J'avais ces lacunes que j'avais constatées sur les événements. Et puis, je refais un feedback, donc là, un flashback d'il y a 20 ans, 25 ans maintenant. J'ai une copine qui m'appelle et me dit « Hervé, je monte une agence de speed dating en France. Veux-tu être animateur ?» Alors, je fais, tu sais, moi, je viens d'être diplômé, je suis jeune cadre chez IBM. Non, je peux en faire mon métier. Ah non, c'est pas du tout un métier. C'est 2 soirs par semaine, tu vas dans des bars branchés à Bastille, et puis tu accueilles une vingtaine de filles. Il y a une animatrice qui s'occupe d'une vingtaine d'hommes, c'est par tranche d'âge, et puis voilà, vous les faites évoluer. Il y a un petit gong, ils se rencontrent 7 minutes.
T'avais quoi là, une petite trentaine ou un peu moins
même, un peu moins. Je devais avoir 25 ans, je devais avoir 22 ans, quelque chose de genre.
Ah ouais, t'es jeune.
Le commerce, 22, 23 ans. Et donc, me voilà avec mon petit gong et des rencontres de 7 minutes, des rencontres amoureuses de 7 minutes.
Pas mal.
Et en fait, j'ai observé. Et en fait, qu'est-ce qui se passe pendant ces 7 minutes? Il y a les deux cerveaux qui se parlent entre eux. Le cerveau gauche qui est rationnel, cartésien, le cerveau droit qui est émotionnel, affectif. Les deux se parlent et ils se disent, tiens, tu l'aimes bien toi la personne? Ouais, écoute, elle a l'air sensée. Ouais, franchement, ça dégage quelque chose, de l'énergie, de l'attirance. Et donc, si les deux se parlent et valident, on a quelque chose de concret. Et donc,
c'était avant Tinder et tout ça.
C'était avant les sites de rencontres mythiques, etc. Mmh. D'ailleurs, pour la petite histoire, la genèse d'un speed dating, c'est un rabbin à New York qui développe ce concept pour faire se marier les juifs de sa communauté, les juifs très pratiquants de sa communauté. Parce que voilà, en 7 minutes, c'était suffisant pour dire, ce sera ta femme, ce sera ton mari, etc. Donc après, c'est arrivé dans toutes les capitales occidentales, à Paris. Et donc, c'est là que moi, j'ai fait pendant 2-3 mois. Voilà, donc ça aussi, c'est une deuxième inspiration, c'est le business en 7 minutes. Et puis la troisième inspiration, donc d'un côté, le relationnel bienveillant du Club Med, la convivialité, de l'autre côté, les speed dating business, et puis enfin, les manques que j'avais pu voir, moi, quand j'étais prestataire et que je ne trouvais pas à ma fin. Bon, force de toute cette expérience-là, en 2013, je décide de faire un événement qui s'appelle, à l'époque, les Big Boss font du ski.
D'accord, donc hommage à... Tu sais qu'on l'a eu, hein. Il est venu, Patrice Lecomte, et moi je le connais bien, et plus on est un peu amis, et c'est quelqu'un que j'admire énormément.
Ce serait bien de le faire venir, fais-le venir à la Winter Edition pour les 10 ans, ça peut être super sympa.
Je vais lui écrire, mais figure-toi, c'est un des premiers invités qu'on a eu au podcast, c'est quelqu'un qui a été toujours bienveillant avec moi, et c'est vrai que les grands réals sont très accessibles, et alors c'est drôle, je spoil un peu, mais Patrice Lecomte est saoulé de la musique pourtant qu'on aime tant des bronzés avec qui était Pierre Bachelet. Fois j'étais au ski, je lui ai dit Pierre Bachelet, il m'a dit ah j'en peux plus, on me saoule avec Pierre Bachelet.
C'est Gainsbourg aussi qui a fait Six Sex and Son pour voilà. Les bronzés
Sache que le Réal il n'aimait pas cette musique, il l'a jamais aimé, je crois même quand il était en montage, mais donc on le salue. Et donc toi, les bronzés, ça faisait partie d'une inspi aussi,
C'était le Club Med, tu vois, donc tout ça venait de la même logique. Et donc en 2013, je décide de faire un événement ski. Alors, pourquoi je l'appelle les Big Boss font du ski? Parce qu'à l'époque, il y avait une pub de Cadre Emploi avec un mug avec écrit Boss et un autre mug avec écrit Big Boss. Et donc, l'idée, c'était de dire continuez votre carrière pour atteindre le niveau Big Boss. Donc, je trouvais ça sympathique. Donc, j'ai gardé la marque Big Boss. Et puis, font du ski parce que c'était en hommage à Fernand Bonnevie. Alors, qui était Fernand Bonnevie?
Ah non, tu fais un bon quiz, là. Là, je ne l'ai pas, celui-là.
Alors, Fernand Bonnevie, c'était, il venait de mourir en 2013, le moniteur de Jean-Claude Duss dans Les Bronzés font du ski.
On est raccord avec Michel
Blanc. C'était le vrai moniteur. C'était pas un acteur.
Hein, c'est pas l'autre qui fait les plantées de bâton, qui est un peu bronzé. Ah, c'est lui. Avec le vin chaud, là.
Exactement. Fernand Bonnevie, c'était pas un acteur qu'on a pris pour l'occasion, c'était un vrai moniteur de ski qui a fait l'acteur comme ça pour l'événement. Et donc, il y avait une petite brève dans un magazine, je trouvais ça sympathique. Et donc, je me suis dit, tiens, je vais mixer tout ça, les Big Boss d'un côté, les bronzés font du ski de l'autre, ça s'appelle les Big Boss font du ski. Et c'est parti.
C'est drôle quand même. Hein.
Je l'annonce à une soirée, à Place Vendôme, il y avait Jacques-Antoine Grandjean à la soirée.
Là, tu n'avais pas quitté encore, tu étais encore chez IBM et tout ça.
Non, j'étais, ça faisait 2 ans que je faisais des interactions business. D'accord. J'avais une petite web TV qui s'appelait DGTV, j'interviewais des décideurs. Donc, je faisais une soirée de fin de saison. Jacques-Antoine Grandjean, c'était la meilleure interview que j'avais faite. Donc, il y avait une centaine de têtes d'affiche du digital, de l'e-commerce présents. Et je leur annonce que je vais les inviter au ski et que ça va s'appeler les Big Boss font du ski. Et alors donc, dans la salle, il y avait Yariv Abessera, qui est le patron de Travel Ski, vient me voir. En off, il me dit, Hervé, tu sais quoi, tu vas galérer. Parce que le ski, c'est très particulier. Les Savoyards, c'est vraiment une mentalité particulière. Donc, si tu veux, on le fait ensemble. Moi, je te gère toute la partie back-office. Et en échange, moi, je trouve que je suis très visible dans le domaine de la montagne, mais pas du tout dans le domaine du digital. Et pourtant, je suis un pur player du ski. Et donc, tu me mettras en avant, tu me mets président de ton jury, tu me mets dans ta conférence de presse. Enfin bref, le deal, c'est je t'aide à l'organiser. Et en échange, j'ai une visibilité associée. Et c'est parti. Wow. On part à la plagne. Je me rappelle, il m'appelle, il me dit, Hervé, j'ai privatisé l'hôtel Mercure Belle Plagne. Il fait 120 chambres. Et je l'ouvre pour toi. Donc, ça veut dire que si vous êtes que 80, tu paieras les 120 chambres.
Waouh. Ah oui, parce que dans ton business, tu dois avancer
Et quand tu fais ouvrir un hôtel, il l'ouvre complètement. Donc, que tu ouvres 30 chambres ou 120 chambres, il te facture les 120 chambres. Donc, je dis, OK, je prends mon risque. Hein. À un moment donné, un entrepreneur doit savoir prendre des risques.
Là, tu étais à combien de temps avant l'event, là?
J'étais 3-4 mois. Finalement, on était 146. J'ai dû trouver tous les petits Airbnb en face de l'hôtel pour récupérer. Ça a marché. Alors, au jour de l'événement, j'étais pas rentable parce que j'avais des coûts dans tous les sens, matériel de ski, location de salle, etc. Par contre, j'avais un modèle très atypique à l'époque. Comme il fallait démontrer, hein, parce que j'avais pas de crédibilité dans l'univers événementiel, j'avais proposé à des partenaires d'être payé à la performance. C'est-à-dire qu'il y avait un petit fixe, qui amortissait une partie de mes charges, train, hôtel, etc. Et puis un variable sur les deals signés. Donc au jour de l'événement, c'était pas rentable. Mmh. Et il s'est trouvé que deux énormes deals se sont signés.
Wow.
Un deal avec Celio pour 800 000 euros.
Bravo.
Un deal avec Betclic pour 323 000 euros. Et donc, il y a eu plus d'un million d'euros sur ces deux deals. Avec une rémunération de 10%, ça faisait 100 000 euros. Et donc, c'est ça qui a permis la rentabilité du premier événement.
Alors, ce qui est alors c'est super que tu aies fait là l'amorce du storytelling. D'ailleurs, on voit vraiment, il y a des super ingrédients. Alors, c'est intéressant ce que tu as dit au début. Tu avais fait plein d'événements, mais il te manquait quelque chose. Et là, tu viens de dire une des clés. C'est que ce follow-up et cette construction de relations après l'événement devenait important. Parce que moi, pour aussi avoir fait des France Digitales, il y a plein de bons événements. Mais souvent, le risque, c'est cette espèce de rencontre. Et puis après, les gens, ils font des relances. Puis il se passe, les gens sont occupés, etc. Donc, ça, tout de suite, tu as vu ce truc-là. Alors,
ce
de
que,
dire,
ce,
je vais
ce
aider.
Que j'ai vu surtout. Ouais. C'est un peu comme ce que disait TF1 il y a quelques années, le temps de cerveau disponible.
La fameuse phrase de Lelay.
Exactement. Et donc, moi, je crée les conditions pour qu'un décideur et un partenaire se rencontrent et aient un niveau d'engagement et d'émotion. Voilà. C'est-à-dire que quand tu rencontres quelqu'un dans un hall d'exposition, c'est froid, c'est neutre.
Il y a les cartes de visite.
Tu n'as pas créé, tu vois, les gens, ils sont obligés de mettre leurs photos sur leur carte de visite pour qu'on se rappelle d'eux, etc. Quand tu viens de faire du ski, que tu es un after-ski, que tu discutes avec un décideur qui a été filtré, parce que nous, on est très dur dans la sélection des deux côtés, bah, c'est deux êtres humains passionnés de digital qui se parlent.
C'est bien ça.
L'un est en position d'acheteur, l'autre est en position de vendeur. Et d'ailleurs, moi, en 10 ans, j'ai vu des gens tourner, des décideurs devenir prestataires, des prestataires devenir décideurs. Donc ça tourne. Il ne faut jamais insulter l'avenir. Et donc, moi, je me rappelle très bien le premier samedi du premier événement en 2013. Il avait fait super beau. J'avais mis des petites fontaines de chocolat avec des brochettes de bonbons à toutes les tables. Et les gens kiffaient. Et je voyais
c'est la clé,
dans leurs
le
yeux
plaisir,
le plaisir. Ils avaient plaisir à échanger ensemble. Et c'est ce plaisir, c'est cette émotion qu'on convertit en business.
Ça, c'est fort ce que tu dis sur l'émotion. Bah, je retiens, bah, comme ça me fait penser là, quand tu disais que tu étais au début dans les speed dating du 11e à Paris. C'est cette alchimie,
Exactement.
Ce fit que tu as réussi et qui est clé en vrai dans le business. Parce que c'est vrai qu'au-delà des noms de groupes, etc., c'est toujours une histoire de personne, surtout en B2B.
Exactement.
Et c'est ça que tu as mis au cœur de ton modèle.
En fait,
la
baseline des Big Boss, on l'a mis en place il y a 5 ans, c'est business as it should be. Très provocateur, le business tel qu'il devrait être. Mm-hmm. Alors ça vient aussi d'un slogan du Club Med qui était life as it should be, donc la vie telle qu'elle devrait être, d'accord ? Et donc moi je considère que le business tel qu'il devrait être, c'est celui que je développe depuis maintenant 10 ans avec une forte emprise de relations humaines. Alors pourquoi ? En fait, dans le business aujourd'hui, depuis 20 ans, on se trompe. Depuis qu'on a accès aux outils informatiques modernes, depuis qu'on a des commerciaux professionnels, etc., on va travailler les sujets fonctionnels, pricing, les sujets techniques. Et puis au dernier moment, dans la phase de décision, tu vois, quand on se dit, bon allez, j'ai deux offres, elles sont à peu près similaires, qui je choisis ? Eh bien, je vais choisir celui qui m'a donné le plus envie. Mais nous, on fait l'inverse. On crée d'abord les conditions pour que deux êtres humains aient envie de travailler. Et quand ils ont envie de travailler ensemble, ils espèrent tous les deux que l'offre va matcher.
C'est très vrai ce que tu dis. Et d'ailleurs, ça pose des questions. Parce que la France, c'est un pays latin. Ça serait supposé être au cœur, mais ça ne l'est pas tant que ça. Dans
ça
la manière.
De moins en moins.
Alors pourquoi ? Parce que on est dans un monde un peu plus désincarné. Il y a eu le Covid. Il y a les tensions sur les prix. Il y a un peu. Les gens sont plus stressés. Il y a tout ça, en fait.
Exactement. Alors qu'en fait, le digital, c'est très stressant parce que pour un décideur, ça change tout le temps. Il y a deux ans, on parlait que de data. Il y a un an, on parlait que de métavers. Cette année, on parle que d'intelligence artificielle. Et donc, à un moment donné, ils sont perdus. Et qui sont les experts ? C'est les partenaires. C'est les experts qui peuvent expliquer en quoi une stratégie de podcast peut être pertinente pour faire du brand content, en quoi le métaverse peut être pertinent pour agréger des communautés. Et donc, en fait, on se trompe souvent. Le décideur qui choisit les bons partenaires, c'est comme une équipe de foot, c'est un sélectionneur de foot.
Vrai,
il est là pour choisir son équipe étendue, donc il a ses collaborateurs et ses partenaires, et c'est tout ce combo qui va créer la pertinence, l'efficacité, les chiffres, la réussite. Moi, je me rappelle un jour, j'ai il est assez connu, c'est Jean-Pierre Nadir. Jean-Pierre Nadir, qui est dans Easy Voyage.
Et qui a fait l'émission sur M6.
Exactement, qui veut être mon associé. Il y a une quinzaine d'années, il vient me voir, il me dit, Hervé, je voulais te féliciter et je voulais te remercier. Je dis, ah bon, pourquoi ? Parce que j'ai Hervé Sevestre, qui était mon directeur marketing adjoint. Tu lui as présenté plein de prestataires qui nous ont beaucoup aidés sur nos sujets de monétisation, de CRM, de data. Du coup, je l'ai promu. Il est devenu directeur marketing. Et franchement, c'est grâce à toi.
Ah, sympa.
Et donc, ce qu'il m'a expliqué à ce moment-là, c'est que le décideur qui fait les bons choix de partenaire, il avance plus vite. Donc, le décideur a toujours l'impression d'être un peu le seigneur qui a le droit de vie ou de mort sur ses futurs fournisseurs. Mmh. Alors qu'en fait...
C'est du partenariat maintenant.
C'est du partenariat. Ça ne peut pas être un qui écrase l'autre. On n'est pas dans la grande distribution pour aller négocier le centime de points sur le Nutella ou le Crunch. On est dans une logique de partenariat. Mmh. C'est-à-dire que si tu tombes sur le bon partenaire, il va te faire progresser.
Et gagner du temps. Et ça, tu trouves ça de toi qui as vu... C'est intéressant parce que tu as vu depuis 2013 l'évolution. On devient de plus en plus partenarial. Enfin, c'est ce qu'on devrait être, should be. Est-ce que... quelle est ta vision? Ça a évolué un petit peu
ou pas?
Moi, je
trouve que le Covid a empiré les choses. Aujourd'hui, moi, j'ai mes commerciaux, par exemple. Ils ont une moyenne d'âge allez, entre 25 et 35 ans. Mmh. Pour eux, ils trouvent ça inutile de faire 2 heures de trajet pour aller en rendez-vous physique. Ils considèrent que c'est mieux d'enchaîner des visios.
Pas d'accord.
Mais c'est nul, parce qu'une visio, on n'a pas tous les sens. On a à peine le regard, on a à peine le son, on ne voit rien. Là, aujourd'hui, on dégage une énergie, on dégage des sens. En fait, nous sommes des mammifères, nous sommes des animaux relationnels. On a besoin de tous les sens pour apprécier, jauger.
Et souvent, d'ailleurs, les deals se font quand même encore sur des coins de table et en physique. Et les visios, c'est trop désincarné. On enchaîne les calls de 30 minutes.
Exactement.
Et finalement, il n'y a pas l'humain qu'on peut avoir là dans notre rencontre. Parce que c'est Hervé, il faut dire, alors, petit storytelling, ça fait des années que moi, je veux faire les Big Boss. Je vais avoir la chance d'y aller dans quelques jours. D'ailleurs, merci Hervé. Et on est effectivement... J'ai hâte de le découvrir et c'est vrai que c'est maintenant qu'on se rencontre, on s'était un peu parlé, mais c'est vrai qu'une rencontre finalement c'est toujours fondateur de tout ce qui va se passer derrière.
Évidemment.
Et donc le visio finalement a un petit peu dilué cette relation, mais le business ça reste un moment des personnes, des salles de rencontrer quoi.
Je te raconte une anecdote, moi je suis très très présent sur LinkedIn, depuis 2007, j'étais un des premiers en France, j'ai 30 000 connexions sur LinkedIn, c'est plafonné à 30 000.
Et je suis comme toi, je suis à 30 000.
Donc je supprime des gens au fur et à mesure, les ceux avec lesquels j'ai moins d'interaction pour ajouter les nouveaux. Et donc, finalement, il ne faut pas se leurrer. Ce n'est pas ça, la puissance d'un réseau. La quantité, parce que globalement, si je devais faire un déj avec chacun d'entre eux tous les ans, je ferais 100 déj par jour. Donc, autant dire que ce n'est pas possible, hein, sinon je pèserais 800 kilos. Et donc, techniquement, bien sûr, dans ces 30 000, j'ai des interactions, j'anime une communauté, mais ce qui est intéressant, c'est ce qu'on appelle les strong connections. Et les strong connections, c'est ce qu'on a vu en vrai,
qui se développe,
interagit. Effectivement, là, moi, j'ai des gens qui se précipitent pour venir aux 10 ans parce qu'ils ont vécu l'événement 1 an, 2 ans, 3 ans, ils ont envie de revenir, ils ont envie de revoir ce que c'est devenu. Ça a beaucoup changé, les Big Boss. On était 150, j'avais une stagiaire et moi. Maintenant, on est 750 sur un événement et j'ai 50 collaborateurs qui vont opérer l'événement. Et moi, je ne serai que le chef de village.
D'accord.
Pour prénommer tous ces participants qui sont venus.
Et tu arrives alors encore, tu es le pro, tu es le Jacques Chirac.
Alors, à force d'observer et d'admirer...
Tu connais les anniversaires, ça c'est fou.
Les anniversaires, non, en revanche, je sais exactement quelle conversation j'ai eue avec les. Avec
t'as une
chacun,
super mémoire.
Et donc, je sais revenir sur la conversation 2 ans, 3 ans après. Et je sais même dire dans quel événement ils sont venus. Je vais te raconter une autre anecdote marrante sur le sujet. Il y a à peu près 3-4 ans, j'étais dans une péniche branchée de la capitale pour la soirée de levée de fonds d'un prestataire du digital. Et donc, j'entends un mec, de dos, hein, j'étais de dos, j'entends un mec casser les Big Boss.
Aïe.
Et en face de lui, donc là, je voyais les gens en face, des gens qui participent au Big Boss et qui défendaient.
Ah.
Donc il était alors, mais Big Boss c'est n'importe quoi, se retrouve en maillot de bain, en chaussures de ski, mais c'est n'importe quoi, un week-end c'est complètement con. Et les deux autres disent, mais pas du tout, moi je fais beaucoup de business, au contraire ça crée un engouement, une émotion, etc. Je m'en rapproche, donc déjà je salue les deux que je connaissais, et puis je vois qui est le troisième. Le troisième, il est jamais venu aux événements.
Ah.
C'est donc quelqu'un qui faisait son intéressant.
Qui parlait.
Donc je dis, bonjour Hervé Bloch, je suis l'organisateur des événements Le Big Boss, j'ai une mémoire photographique de tous les participants, tu n'es jamais venu à mes événements. Donc là, ils se sont un peu fébriles. Et il me dit, oui, bon, j'ai dit que je venais, mais en fait, c'est ce qu'on m'a raconté. Ben oui, c'est ce qu'on t'a raconté. Donc moi, ce que je te propose, parce que je vois son badge, hein, il était tout à fait légitime pour participer, viens à l'événement, à la rigueur, déteste, et après, parle-en. Mais tant que t'es pas venu, tu fais juste ton intéressant dans une soirée du web.
Bon ben voilà, on le citera pas, on va rester élégant.
On le citera pas.
Mais c'est drôle, là.
Et voilà, et donc, parce que ce qu'on fait aussi, c'est très clivant. Mm-hmm. C'est-à-dire que faire venir des professionnels un week-end, clivant. Mm-hmm. Les faire skier ou leur faire une sortie bateau l'été, clivant. Tout le monde se tutoie, dès le vendredi matin, clivant. Il y a des rendez-vous business de 7 minutes, alors qu'on a plutôt l'habitude d'avoir des rendez-vous de 15, 20, 30 minutes sur d'autres formats. Et en fait, les décideurs, ils nous disent qu'un rendez-vous de 30 minutes, quand au bout de 2 minutes,
ils sont saoulés,
c'est insoutenable. Alors que 7 minutes, il y a un gong qui retentit. Soit la rencontre était belle et le gong est très frustrateur, et tant mieux, parce qu'ils peuvent se retrouver dans 2 heures pour échanger ensemble de manière plus informelle. Soit effectivement, le gong est libérateur, parce qu'il ne se passait rien dans cet échange et que 7 minutes, ça suffit pour un échange qui n'allait pas avoir... de pertinence pour prolonger le business.
Non, en tout cas, ultra intéressant sur la saga des Big Boss. Et alors, toi qui as vu aussi les gens depuis 10 ans, ils sont un peu plus tendax, les gens, maintenant, depuis 3-4 ans, depuis le Covid, qu'avant, ou alors, ça se détend un peu?
Déjà, ce qui est très important, c'est que je crois qu'il n'y a pas une seule personne qui était sur Winter 2013 qui est dans la même boîte.
Oui, ça bouge. 2023, ça évolue beaucoup.
Ce sont des cadres dirigeants. En général, ils restent 3, 4, 5, 6 ans dans les boîtes, pas plus. Y compris même, j'avais le président de Trois Suisses, le président de Showroom Privé, et qui, entre-temps, ont changé de boîte. Donc voilà, donc déjà, il y a une belle évolution. Et donc, c'est pour ça qu'il ne faut jamais insulter l'avenir, parce que même si à l'instant T, ce décideur n'est pas pertinent, il peut le devenir dans les années à venir. Donc voilà, il ne faut pas se dire, tiens, lui, je ne vais pas être sympa avec lui, parce qu'il peut m'apporter. Rien m'apporter à court terme. Sois sympa avec lui.
Ça, c'est connu. Ça, oui.
Et tu auras
les gens qui tombent de l'échelle positif. Vont remonter à un moment donné. Exactement. Ça, c'est la phrase.
Et donc en fait, oui, ça a beaucoup changé. Alors oui, le Covid a finalement réduit la présence des collaborateurs avec le télétravail. Et donc, c'est pour ça que des événements comme les nôtres ou des lieux comme Château Fort
ça amène un peu
bien,
de lien.
Parce que ça remet du lien. Enfin, je veux dire, les gens qui se retrouvent 2 jours, 3 jours chez eux... alors ceux qui ont une belle maison avec un jardin, c'est sympathique, mais ceux qui sont dans un 3 pièces dans Paris avec une petite fenêtre, ça les rend fous.
Donc c'est vrai que c'est de l'inspi, c'est aussi de découvrir, parce que c'est quand même des métiers où il faut tout le temps aussi avoir un peu de renouvellement, et quand on est des semaines un peu chargées, on n'a pas le temps de faire ça. Donc toi, t'amènes aussi cette fenêtre qui est intéressante.
Exactement.
Pour ces personnes.
En fait, les décideurs, ils n'ont plus le temps. Ils se font chasser toute la journée sur LinkedIn, par email, par téléphone, et ils finissent par ne plus décrocher, par ne plus répondre. Et pourtant là, sur l'événement, ils le disent eux-mêmes, ils ouvrent leur chakra. Et là, ils disent, c'est, je suis là, donc viens m'expliquer ton offre. Ça va me plaire, ça va pas me plaire, mais je te laisse l'expliquer.
Hervé, tu as l'air d'être un peu comme moi, un peu à l'anglo-saxonne, à l'américaine. Dans les autres événements que tu as fait sur le mapping de l'event, est-ce qu'il y en a qui t'ont marqué? Je sais pas, est-ce que tu as fait les CES, les South by Southwest, Texas? Qu'est-ce que tu trouves intéressant?
Je suis allé au CES. D'ailleurs, c'était marrant, c'était une année où il y avait un blackout. Donc le CES, il faut se rappeler que c'est le Consumer Electronic Show, et ils ont une panne d'électricité. Et donc il y avait des halls entiers, parce qu'ils avaient tous abusé en fait. Toutes les marques de télé avaient chargé en électricité à mort, parce qu'il y avait des écrans maintenant qui font 300 mètres de long, etc. Et donc le truc a explosé, quoi. Donc c'était assez marrant. En fait, le sujet, c'est que les gros événements, c'est pas ma cam.
C'est trop désincarné.
Le croisement entre celui qui a un intérêt et celui qui peut répondre à cet intérêt, eh bien, il n'est pas évident. Donc voilà, moi, je préfère faire des événements affinitaires.
Plus qualifiés.
Nous, en fait, on joue un rôle de physionomiste de boîte de nuit.
T'es un matchmaker, toi.
Moi, je suis un physio de boîte de nuit. C'est-à-dire qu'en gros, moi, je suis marine des bains douches.
T'es Jean Roc.
Et je suis Jean Roc. Et là, pour avoir 400 décideurs confirmés, il y en a 3000 qu'on frappe à la porte. Il y en a, ils n'avaient pas le niveau. Il y en a, ils sont déjà venus, mais ils n'ont pas signé. Ils ne sont pas prioritaires.
Tu ne rentres pas dans les bains.
Pas de bras, pas de chocolat. Tu n'as pas signé, tu ne reviens pas.
C'est drôle.
Et donc voilà, donc on a une hyper sélectivité des décideurs sur leur projet, la maturité de leur projet. S'ils sont déjà venus, qu'est-ce qu'ils ont signé, pourquoi, comment, quel montant. Et voilà, et donc côté prestataire, il y a aussi une sélection naturelle, puisque c'est un budget. Quand on est capable de mettre un budget, c'est qu'on va sérieusement faire les choses. Et puis, on a une sélectivité aussi parce qu'on a lancé il y a 3 ans. Avec une société que j'ai fini par acheter d'ailleurs, Pitch Planet, la Big Boss Academy. Mmh. Alors qu'est-ce que c'est la Big Boss Academy? C'est la meilleure commerciale de tous les temps que je connais, qui venait aux événements, qui cartonnait sur nos événements. D'ailleurs, elle a fait 4 ans nos événements et elle a fait un bilan. Elle a signé 17 deals pour 70 millions de volume d'affaires.
Pas mal.
D'accord, en 4 ans.
Donc elle possède la moitié de Val d'Isère.
Donc très belle, très beau ROI. Et un jour, elle m'appelle et me dit, Hervé, je vais quitter cette société. Par contre, j'ai beaucoup observé, j'adore tes événements. Pour moi, c'est absolument mon ADN relationnel. Par contre, il te manque quelque chose. C'est que vous avez une forte croissance, vous avez des nouveaux sponsors tout le temps. Et les anciens, ils maîtrisent. le concept est nouveau, ils sont complètement perdus. C'est tellement différent. Ils ne savent pas s'il faut tutoyer, ils ne savent pas s'il faut ramener des plaquettes commerciales, ouais, ils ne savent
évangéliser,
pas si le samedi
quoi.
Soir il faut pitcher ou au contraire il faut sympathiser. Et donc moi je leur donnais des petits tips, tu vois, il y avait des petits guides, mais ce n'est pas la même chose. Elle me dit, écoute, si tu veux, je te montre ton académie. Je vais former les nouveaux prestataires ou les nouveaux commerciaux des prestataires qui sont déjà actifs pour qu'ils aient la meilleure préparation à l'événement. Et donc la baseline, c'est oublier de se préparer, c'est se préparer à être oublié.
Ah, pas mal. Donc il faut être spontané. Ça veut dire quoi qu'il faut préparer? Il faut être spontané.
Ça veut dire qu'il faut bien sûr être spontané dans les rencontres qu'on appelle sérendipitaires. Hein. T'es en train de manger des œufs brouillés, t'es au petit-déj du Club Med. Tout d'un coup, tu discutes avec un mec derrière. Ça fait 5 ans que tu le chassais. Et là, t'es avec lui à côté.
Oui, bien sûr.
Donc là,
c'est toujours comme ça dans
la
vie.
Si tu commences à dégainer ta plaquette, ta carte de visite, tu l'emmerdes.
Peut-être parler des cornflakes d'ailleurs.
Voilà.
D'abord.
Et donc d'abord, tu parles des cornflakes, du bacon et des œufs brouillés, et t'as créé un lien.
Bien
après, t'iras rebondir sur ce lien.
Intéressant.
Donc,
académie va un petit peu plus donner des tips. Alors, c'est bien parce que pour le podcast, ça fait une bonne transition, puisque le podcast, j'aime bien donner des petits tips. Donc, comme t'es les pitchs, t'as dû en voir un paquet, et côté Presta annonceur, on va faire des deux côtés. Dis-nous côté Presta.
Alors, je te raconte une anecdote. Moi, j'aime bien raconter des anecdotes.
Ouais, on voit, t'en as des bonnes. Hein, t'es un bon storyteller.
Avec 10 ans
forcément.
D'événements. Un jour, j'ai un décideur, il est directeur digital de Euler Hermès. D'accord. Et puis il écoute les prestats qui viennent se présenter à lui. Donc le décideur, il est assis à sa table et toi tu vas circuler de table en table pour aller faire tes rendez-vous. Et donc à un moment donné, donc le rendez-vous dure 7 minutes, d'accord. Et il faut surtout pas parler pendant 7 minutes, sinon tu laisses pas la parole à l'autre. D'accord. Il faut juste faire un pitch de 1 minute 30, laisser la réaction de l'autre et puis construire une approche. Et donc là il y a un prestat qui prend la parole pendant 7 minutes et qui présente toutes ses références du luxe. Et donc le gong retentit et à un moment donné Romain Robin reprend la parole et dit, écoute, je suis désolé mais j'ai pas réussi à te reprendre la parole hein. Mais en fait Euler Hermès c'est pas Hermès. Euler Hermès c'est de l'assurance crédit à l'export.
Ah, il a perdu
et toi t'as cru que c'était Hermès, mais si tu m'avais dit au bout d'une minute trente est-ce que ça va à mon pitch etc, je t'aurais rebondi tout de suite en disant attention, ne me présente pas que tes références du luxe puisque moi je fais de l'assurance.
Donc un peu d'interaction ça peut servir
et un peu de préparation.
Oui,
il suffisait en 2 minutes d'aller voir LinkedIn et d'observer de qui était le pédigré de la personne. Donc voilà un exemple côté décideur, voilà, de d'erreur. Côté Presta, un jour j'ai un Presta, il me dit, tu sais Hervé, voilà, on vient de conclure un partenariat, je voulais juste te dire mon DG est magicien. Voilà, je te donne cette info, t'en fais ce que tu veux. Je lui écoute, j'ai une idée. Tu vas dire à ton DG magicien de venir à l'événement avec un billet de 50 euros et un billet de 500 euros. Comme il fait du search, tu sais, donc c'est de l'achat de mots-clés sur Google et autres, et ben pendant ces 7 minutes, il va faire une prestation de magie. Il va dire, c'est quoi mon métier? Mon métier, c'est que ce billet de 50, hop, il devient un billet de 500.
C'est drôle.
Et donc, voilà.
C'est les talents cachés.
On va s'en rappeler.
Oui.
Tu vois, contrairement, ben voilà, moi, je fais du search, donc je connais bien les algorithmes de Google, tu vois. C'est-à-dire, tout de suite,
tu crées. C'est fort, ce que souvent, c'est dans les petits livres, moi, que j'aimais bien, là, sur le marketing, comment visuellement tu peux toucher beaucoup plus parfois qu'un long discours ou une longue presse PowerPoint.
Moi j'ai écrit un ouvrage il y a maintenant 13 ans qui s'appelle Les 7 péchés capitaux du marketing digital. Donc j'ai adapté les 7 péchés capitaux.
T'es un fan de Seven aussi,
etc. en fait j'ai expliqué que chaque péché était finalement un des enjeux du digital. C'était un petit livre, hein, il a été tiré à 2000 exemplaires. Je vois beaucoup de gens, un peu des vieux de la vieille du web qui l'ont dans leur bibliothèque et autres. Et donc voilà, c'est beaucoup de vulgarisation. En fait, le digital, moi, j'anime une communauté dans le digital, mais je suis un sachant du digital. Je fais de temps en temps des prestations de conseils et autres. Et donc, vraiment, je connais bien ces sujets. Et d'ailleurs, j'ai besoin de bien connaître ces sujets pour choisir les bons prestataires, pour choisir les bonnes catégories.
Oui. Tu es un peu prescripteur de tendance, tu es au milieu de tout ça.
Exactement.
Et alors, d'ailleurs, en tendance, bon, sans tout dévoiler, mais toi, tu trouves des tendances intéressantes que tu trouves dans les nouveaux prestataires. Qu'est-ce qui se développe pas mal, un peu en côté business, toi?
En fait, je me rappelle, l'année dernière, on a fait une learning expedition dédié Metaverse pendant l'événement. Donc là, c'était le samedi matin à 8h. Donc,
ça peut retomber le Metaverse depuis l'IA.
Exactement. Et donc, mais je peux dire qu'à l'époque, tout le monde était là. Ils étaient comme des dingues. Ils étaient taqués. Donc, ils ont vu tous ces sujets. On leur a montré les wallets. On leur a livré un NFT personnalisé. On leur a montré Sandbox, etc. Et ils étaient tous comme des dingues. Et boum, L'IA arrive, redéfinit les cartes. Et d'ailleurs, ce qui est marrant, c'est que autant le métaverse, c'est un pari aujourd'hui, on va dire audacieux, si ce n'est un pari foireux. Même Google, enfin Facebook a changé de nom pour s'appeler Meta. Mmh. Globalement, bon, aujourd'hui, on n'en a pas démontré la pertinence, alors que l'IA, c'est sûr, certain que l'IA, c'est en profondeur. Oui,
c'est
ce qui terrorise tout le monde dans l'IA, c'est que ça fait 200 ans que les révolutions industrielles attaquent le col bleu, donc l'ouvrier, l'agriculteur. Et bien là, ça fait quelques mois qu'on va s'attaquer au col blanc, le cadre, le graphique, enfin le graphiste, le développeur. Voilà, c'est-à-dire que l'IA, il faut s'en emparer avant que l'IA s'empare de nous. Quoi.
Tu penses que ça va remplacer ou c'est un combo en vrai? Ça va être ce qui va se jouer, c'est le collaboratif.
Il y a deux approches. Moi, par exemple, j'ai deux graphistes. Je prends envie un et considérer que l'IA va compléter l'autre. Je le fais pas. Ils peuvent se rassurer. Ce que je fais, c'est que je leur demande à eux de maîtriser l'IA.
Voilà.
Donc à eux deux, au lieu de produire 100 créations dans l'année, ils en produisent 1000. D'accord. Et c'est vrai que là, on a fait les 10 ans. On a fait un livre des 10 ans que je pourrais te dédicacer à la Winter Edition avec plaisir.
Merci.
Et donc, c'est un livre de 460 pages. On a 60 interviews de décideurs, de partenaires
génial.
Emblématiques, des gens qui sont venus sur l'événement, des gens comme Harry Roselmack, des gens comme Brahim Asloum, Ty Chris, Jean-Marc Sylvestre. Et donc, c'est vraiment le livre épopée des Big Boss. Et des fois, il nous manquait des photos et autres. Mais avec l'intelligence artificielle, on fait tout aujourd'hui. C'est-à-dire qu'à un moment donné, je trouve une photo basse def que j'ai retrouvée sur Facebook, truc, t'appuies sur un bouton et hop, ça la remet en haute def, ça vient compléter la photo. Enfin, c'est impressionnant, quoi. Donc, très clairement, l'IA va déstabiliser l'ensemble des lignes. Et d'ailleurs, la thématique de cette Winter Edition, c'est l'IA. On aura de l'IA sur toutes les conférences. C'est la thématique de la présidente du jury. On a pas mal de sponsors qui sont des ancêtres de l'IA ou des néophytes de l'IA, mais qui vont adopter l'IA dans le cadre de leur offre. Et donc, autant... Moi, je pensais que le métaverse était un effet de mode, et c'est ça qui est en train de se confirmer. Autant l'IA, ce n'est pas du tout un effet de mode. Enfin, je veux dire, l'IA, c'est sûr qu'on va entendre parler sur les prochains mois, prochaines années, prochaines
c'est
décennies.
Sûr, ça fait plus partie des réalités. Les marques, finalement, ce qu'elles attendent le plus? Parce que vous êtes pas mal orienté perf et e-commerce. J'ai vu qu'historiquement, c'était beaucoup de prestataires là-dedans. Tu te sens dans les tendances? Qu'est-ce qu'ils veulent le plus, finalement?
En fait, je pense que c'est un combo. C'est-à-dire qu'ils ont besoin de data de plus en plus. Ils ont besoin d'IA récemment. Ils ont besoin de content. Parce qu'ils doivent lier, finalement, les mathématiques et l'émotion. C'est comme ça qu'on fonctionne. Quand on a 10 millions de clients, on a forcément des flux de data et puis on doit quand même créer de l'émotion. Comment créer de l'émotion quand on a 10 millions de clients? Et donc, faut pas opposer le contenu à la data.
Non, c'est complémentaire.
Faut pas composer l'IA, faut pas confronter l'intelligence humaine et l'intelligence artificielle. Il y a des petites vidéos qui circulent en ce moment sur LinkedIn qui sont assez marrantes. Un robot qui danse et un robot qui joue au ping-pong. Et tu te dis, putain, vraiment le niveau, et en fait, c'est des fakes. C'est-à-dire qu'en gros, c'est pour nous dire attention, ça va bientôt arriver. Pour l'instant, ce n'est pas le cas. En fait, les robots, l'intelligence artificielle, ils savent faire des trucs très très pointus que l'homme n'arrive pas à faire très facilement. En revanche, ils ne savent pas faire des trucs qu'un bébé sait faire. Parce que c'est des combinaisons qu'on a depuis 300 000 ans, 3 millions d'années. Donc, c'est plus compliqué pour eux. Mais le jour où, effectivement, ce robot doté d'une intelligence artificielle serait capable de jouer au ping-pong avec la réactivité qui convient ou faire une danse endiablée, c'est que... il se sera passé des choses. Et puis, vu à la vitesse de pénétration de ces sujets et d'accélération, ça peut arriver vite.
Quelques mots, Hervé, sur ta digitalisation. Donc, je sais, tu as lancé de la plateforme 360. Moi, j'avoue que j'ai été... Alors, c'est pas parce que je te reçois, mais j'ai été assez bluffé de tes équipes, du professionnalisme de tes équipes ces derniers jours et de l'aboutissement de votre plateforme. Enfin, vraiment, on sent qu'il y a un level, je tiens à le dire, ultra précis et spécifique. Tu peux parler de ce service et comment il amène une modernisation là-dedans?
Alors,
aussi,
en fait, en 2020, on est fin février, l'Italie est confinée, on ne sait pas si ça va arriver en France. Macron commence à prendre la parole.
Oui.
Et donc là, moi, je me dis, oulala, ça sent pas bon pour
tout
les 20
le monde
événements.
A flippé dans l'événementiel. Voilà.
Ça sent pas bon pour les 20 événements que j'avais encore à déployer sur l'année. J'en avais déjà fait 3 ou 4. Et donc, je décide d'anticiper, de trouver une solution pour digitaliser les événements, au cas où. je rencontre Renaud Simard, le DG de Proximum 365, qui finalement avait vu l'épopée Big Boss, il avait vu la levée de fonds, il avait finalement un peu suivi ma société, moi je ne le connaissais pas. Donc il a vu le formulaire que j'avais complété comme ça, online, et du coup il a décidé lui-même de traiter, et on se voit pour déjeuner, c'était le vendredi, juste avant le confinement annoncé par Macron. Et donc, effectivement, je vois que sa solution peut tout à fait répondre à la logique de digitalisation de mes événements. Et donc, on a dès le mois de juin 2020, tout le monde était couché, on a fait un événement, Summer Online Meetings, on en a enchaîné 15 depuis. Et dès que, c'était à peu près un an plus tard, on a pu refaire des événements physiques, on a refait des événements physiques. Et donc, qu'est-ce qui s'est passé ? Dans un événement, il y a trois typologies. Il y a trois interactions. Il y a ce qu'on appelle le one-to-many, c'est la conférence plénière. C'est une personne qui parle, un ministre, une tête d'affiche, un speaker, devant 100 000, 10 000 personnes. Ensuite, il y a le one-to-few, c'est un atelier, c'est un expert qui vient parler à 5, 10, 15, 30 personnes. Après, il y a le one-to-one. Ce qui est le plus compliqué, c'est le one-to-one. Le one-to-many, c'est un webinar. Le one-to-few, c'est un webinar adapté. Et le one-to-one, c'est beaucoup plus compliqué parce qu'il faut faire en sorte que ça matche entre ceux qui ont une proposition de valeur d'achat, ceux qui ont une proposition de valeur de vente. Et donc, ce n'est pas évident. Donc ça, c'est la grande force de nos algorithmes qu'on développe, nous, depuis 10 ans et de ce que fait Proximum. Donc, on avait déjà un ADN commun. Et donc, on a développé des événements qu'on appelait online meetings. Parce qu'en fait, l'enjeu, c'est qu'on n'avait plus la partie relationnelle, puisque devant un écran.
Ça s'est arrêté.
Par contre, il y avait quand même des décideurs qui étaient dans des secteurs très prolifiques pendant la crise, que ce soit l'e-commerce, la santé, etc. Donc, on avait bien sûr pas trop ciblé les secteurs qui souffraient. Et puis, on allait chercher plutôt ceux qui avaient un engouement avec la crise. Et donc, on a pu faire des beaux événements et on a beaucoup observé. Au royaume des aveugles, les bornes sont rois. Donc, à choisir entre un événement physique et un événement digital, je préfère et tout le monde préfère un événement physique.
C'est sûr.
En revanche, les deux peuvent être complémentaires.
Ça peut être un complément, en fait. Exactement. C'est ça, le truc.
Et donc, on a créé Big Boss 365 qui permet de créer entre deux événements des interactions entre un décideur qui lève la main, qui a un projet très précis, qui veut déployer très vite. Voilà, je vois que mon taux de conversion chute de mois en mois. Il me faut une solution, une agence, une techno, un prestataire, un cabinet pour optimiser ma conversion.
Ah, super.
Et donc, nous, on a 500 clients actifs. Ils sont tous référencés dans la plateforme. Par défaut, quand tu viens à un événement, tu peux être référencé dans la plateforme. Et donc, on est capable, en 24 heures, de lui organiser trois visios avec trois acteurs qui peuvent répondre à son sujet. Donc, c'est l'immédiateté. L'instantanéité et la qualification business au plus profond.
Tu n'as pas pu le proposer à d'autres événements, parce que je pensais au MIP ou des événements qui n'ont peut-être pas implémenté ce genre de choses.
Ma filiale peut le faire, mais moi, je n'ai pas vocation.
Tu le fais pour les big boss.
Moi, en gros, je produis mes événements. Oui, on produit tout ensemble. On ne sous-traite pas une agence événementielle. On a l'agence événementielle en interne. On ne sous-traite pas le BizDev. On a les commerciaux en interne.
Enfin,
voilà, tout est vraiment produit en interne.
Ok, super intéressant. Petite question, je rebondis sur tout le début de ton podcast sur l'émotion et ce que tu as dit. Ça me faisait penser à un film Vendeur avec Gilbert Malky où il dit finalement le vendeur c'est toi.
C'est pas Les Portes de la Gloire, ça?
Il y a le truc avec Poulvord, mais je crois qu'il y a un autre film qui s'appelle Vendeur.
D'accord.
Avec Gilbert Malky et qui met cette phrase, m'avait marqué, qui est le vendeur finalement au-delà de l'entreprise, du produit, c'est toi. C'est un peu ce que tu disais sur l'intuition personnelle, l'humain. Et donc toi qui as dû voir beaucoup de sales, quelles ont été, tu trouves, les clés des vendeurs? Alors, tu as parlé un peu de l'écoute, et finalement, toi, est un bon sales.
Moi, j'ai une définition.
Et Grandjean, et juste avant que tu y ailles, parce que tu as parlé de Jacques-Antoine Grandjean, il avait dit une phrase qui m'a marqué. Il a dit, le plus rare, c'est des très bons développeurs et des très bons vendeurs.
C'est vrai, c'est vrai. Et tout à fait, parce que c'est des marchés pénuriques, les deux. Alors, déjà, un commercial. Moi, j'estime que le meilleur commercial, c'est celui qui cumule deux aptitudes. Souvent, ils en ont qu'une. Alors, quand ils en ont zéro, faut pas les embaucher en commercial. Souvent, ils en ont qu'une et ça marche pas. Ou c'est difficile. Alors, il y a le commercial qui est besogneux. Il travaille. Il travaille beaucoup, il passe beaucoup de coups de fil, il saisit nickel son outil CRM, il est nickel. Par contre, il n'est pas talentueux, mais il est besogneux. Il bosse. Alors, à force, il tombe quand même sur des clients qui matchent et il finit par signer. Le besogneux, il va faire 87-89% de son chiffre d'affaires, de sa target. C'est pas mal, mais c'est pas suffisant. Puis après, on a le talentueux. Alors, le talentueux qui n'est pas besogneux, il faut le virer, parce qu'il est insoutenable. Il arrive à 11h, il fume sa clope, il distrait tout le monde. À 14h, il pince un coup de fil. Comme il est talentueux, il signe. Puis à 14h30, il continue à distraire tout le monde et à 17h, il se barre. Et il fait 120% de ses objectifs. Oui. Sauf qu'il distrait tout le monde, il agace tout le monde.
C'est pas bon, ça.
Et donc, le bon vendeur, c'est un peu comme le bon chasseur, hein, jusqu'à des inconnus, le bon vendeur...
Les galinettes cendrées,
c'est celui qui est besogneux et talentueux.
D'accord.
Et oui, bah, y a un pas besogneux, de secret, c'est le travail, on peut lui donner quelques trucs, parce que le talent, c'est pas comme ça inné non plus. Le talentueux, bah, il faut qu'il bosse. Et donc, c'est aussi beaucoup de soft skills. Hein. C'est-à-dire que Gwenaëlle Brémils, qui dirige Pitch Planet, elle a une conviction profonde, et je suis d'accord avec elle, c'est que le commercial, déjà, il n'y a pas vraiment d'études pour être commercial. Et donc, le commercial, c'est une aptitude de gens qui ne le sont pas forcément.
Et d'ailleurs, les grandes écoles de commerce... forme pas suffisamment sur le commercial. Moi, pour avoir donné des cours dans mon école à l'ESSEC, je l'ai toujours dit aux étudiants, j'aimais les étudiants internationaux dans les classes.
Ils appellent ça commerce, alors que c'est plutôt une école de gestion, d'audit, de finance.
C'est dommage. C'est très dommage, parce que c'est quand même la base du business, surtout quand toi, t'as été entrepreneur pour développer. Tu sais que s'il n'y a pas le sales derrière, tu vas pas faire grand chose.
Exactement.
Donc, c'est vrai que c'est intéressant que tu dises ça, que tu disais, Gwenaëlle, qu'est-ce qu'elle disait finalement.
Et donc, elle considère à raison qu'à n'importe quel moment de la journée, elle peut tomber sur quelqu'un qui a un sourire, qui a vraiment une gentillesse, une sympathie, et à qui on peut donner des briques de hard skills pour en faire un très bon commercial. Donc en fait, le très bon commercial, c'est d'abord des soft skills, d'abord une éducation. Est-ce que tu fous rien de tes journées parce que t'as mal été élevé par tes parents, etc.
Ou de la culture même, voilà. Un petit peu de culture aussi, parce que de temps anecdote, il ne faut pas que être que dans son business bourrin. Alors,
ça peut
c'est
développer
important,
aussi.
C'est l'humain,
mais en tout cas, c'est effectivement des soft skills, effectivement de la culture, et après, des compétences. En fait, à l'académie, d'ailleurs, c'est marrant, parce que Gwenaëlle, elle forme à peu près 100, 120 personnes par an, et des fois, elle m'appelle, elle me dit, franchement, celui-là... Il ne faut même pas qu'il vienne à l'événement. C'est-à-dire que c'était une catastrophe toute la journée, il contestait
oui,
tout.
Il a saoulé.
Et donc, tu vois, un mec qui est médiocre, on n'en fait pas une star. Un mec qui est moyen, on en fait un bon. Un mec qui est bon, on en fait une star. Un mec qui est médiocre, on en fait à peine un moyen. Et donc, à un moment donné, la sensibilité commerciale, on l'a ou on ne l'a pas. L'énergie commerciale, on ne l'a pas. Et je vais revenir aussi sur les qualités d'un entrepreneur. Alors, pour moi, un entrepreneur... Je dis pour moi, mais je l'ai beaucoup confronté depuis 20 ans à d'autres entrepreneurs, parce qu'avant, je ne l'étais pas moi-même, mais j'en côtoyais. Et je dirais qu'un entrepreneur doit avoir ces trois qualités. S'il n'a pas ces trois qualités, son entreprise ne survivra pas. Ou il s'associe avec des gens qui peuvent compléter les qualités qu'il n'a pas. D'accord ? Alors, pour moi, la première qualité indéniable, c'est une qualité commerciale. Une détermination sans faille, une énergie, une conviction. Un entrepreneur qui n'est pas lui-même le meilleur commercial de sa société, il n'y aura jamais. Ou alors, il faut vite qu'il associe un commercial au capital et autre. Et encore, c'est compliqué parce que s'il n'a pas les codes, il ne saura pas le manager, etc. Donc, premier sujet. Et il y a beaucoup d'entrepreneurs qui n'ont que ce point-là. Et ce n'est pas suffisant. Deuxième aptitude, deuxième compétence.
Prends des notes, du coup.
Avec plaisir. Deuxième qualité, c'est la logique marketing, produit, vision.
Oui,
d'accord ? C'est-à-dire que d'avoir un vendeur qui n'a pas de produit, ça ne marche pas. Et d'avoir un produit qu'on ne sait pas vendre, ça ne marche pas non plus. D'accord ? Donc, il faut ce bon combo. Moi, j'ai eu la chance d'avoir les deux. D'avoir une vraie détermination.
Produit ou service ou quand même avant tout produit ?
Produit et service des deux côtés. C'est-à-dire que si c'est de la tech, bah, c'est une vision tech. Si c'est un produit, bah, voilà, c'est la vision marketing du produit. Enfin,
oui,
en
ça,
gros,
c'est... clé.
C'est
quel secret sauce j'ai sur mon marché, sur ce que j'ai envie de faire.
Quel est mon produit ? Est-ce qu'il est au bon endroit, au bon prix, etc. Et puis enfin... même si on peut le sous-traiter quand même, il faut une compétence de gestion. Voilà, parce que faut pas confondre encaissement et chiffre d'affaires, faut pas confondre devis et facture, faut pas confondre reconnaissance de chiffre d'affaires et facture dehors. Enfin, il y a bon nombre d'entreprises qui font faillite pas parce qu'ils n'ont pas vendu, hein, parce que ça fait 15 mois que les clients ne les ont pas payés, etc. Donc, en gros... moi, j'ai vu trop de fois des entrepreneurs ne pas réussir parce que bah, c'était deux marketeurs ou deux commerciaux.
Il manquait la complémentarité et les deux pieds, les deux jambes, on dirait, entre l'attaque et la défense.
La partie gestion, on peut quand même sous-traiter la partie compta et autres. Mais moi, j'ai fait des conneries sur ces sujets. Au début, j'avais un petit comptable de quartier. Ensuite, ma collaboratrice, elle avait vu le film Le Stagiaire avec Robert De Niro.
J'adore ce film.
Et elle m'a dit, viens, on recrute un papy compta. Bon. Donc, il y avait des annonces. On recrute un papy compta. Il s'appelait Hélin. Il avait à l'époque 76 ans. Je pense qu'il doit plus être de ce monde. Peut-être parce que c'était il y a 7-8 ans. Donc, on le salue d'au-delà. Et là, en fait, bah, il avait ses méthodes comptables d'il y a 40 ans. Et il avait la lenteur de ceux qui ont, avaient 3 secrétaires, 2 assistantes, et ils n'avaient pas d'outils. Et donc, en fait, on grandissait plus vite que sa capacité à déployer. Au début, je voulais juste quelqu'un qui me fasse mes notes de frais. Mm-hmm. Puis après, il fallait bien que je fasse des fiches de paye. Puis après, il fallait bien que je pilote des revenus, etc. Et donc, après, bon, bah, j'ai recruté un collaborateur comptable qui est devenu mon DAF. Et donc, voilà. Donc, en gros, j'ai pu quand même, comme j'avais une bonne maîtrise d'un compte de résultats, le bilan, laisser ça au comptable. Mais le compte de résultat, il faut maîtriser son compte de résultat. Il faut savoir ce que c'est qu'un chiffre d'affaires, ce que c'est qu'une dépense opérationnelle, ce que c'est qu'une dépense structurelle, qu'une masse salariale, qu'un EBITDA, qu'un EBIT. Il faut savoir tout ça. Il faut savoir où ranger les bonnes catégories, comment on peut développer du récurrent. Comment... Et donc, voilà. Donc, en gros, un entrepreneur qui n'est qu'un commercial, c'est bien.
Hein, ça ne suffit pas.
Mais ça ne suffit pas. Un entrepreneur qui n'a que la vision de son produit, c'est bien. Mais ça ne suffit pas. Et un entrepreneur qui est un bon gestionnaire, c'est bien, mais ça ne suffit pas non plus.
Bien sûr. C'est pour ça que ce n'est pas si simple, qu'il faut bien s'entourer et tout ça. Quelques mots, on arrive dans la dernière partie du podcast. Quand même, bah, justement, ça fait une bonne transition que tu as grandi en tant qu'entrepreneur, parce que maintenant, tu as un groupe et il y a eu aussi... Ça, tu en avais besoin un moment pour amener, aller à ton ambition. C'était un point important.
Alors,
pour toi.
Encore une anecdote. Hein, c'est sympa, les anecdotes. On est en 2018. J'ai un décideur de Carrefour qui m'a pu me dire « Hervé, je voudrais te présenter un de mes partenaires qui pourrait sponsoriser ton événement. » Avec plaisir, super cooptation. Donc, on se retrouve dans les locaux du partenaire. Puis, je vois sur la plaque d'entrée audit, finance, gestion. Je me dis, mais qu'est-ce que je fous là, audit, finance, gestion? C'est pas du tout les prestataires classiques qu'on a. Nous, on a des prestataires plutôt de com, de marketing, de digital. Je me dis, peut-être hors sujet, machin. Et donc, je suis reçu. Et en fait, ils m'expliquent. Ils me disent, voilà, bah, il se trouve que Carrefour, on achète beaucoup d'acteurs. Ils avaient, à l'époque, acheté Rue du Commerce, Croquetland. Ils avaient acheté une société dans le bio aussi, Greenwiz. Bon, donc, ils étaient dans une euphorie d'achat de City Commerce. Et puis, cette société était spécialisée pour faire tous leurs audits financiers. Donc, le contrôle de gestion, l'audit, ce qu'on appelle le transaction services, donc tous les services liés à la transaction d'une opération. Et en fait, le problème, c'est que celui qui fait l'audit financier, bah, il va prendre des honoraires, 10, 20, 30, 50 000 euros. Mais c'est pas lui le banquier d'affaires. C'est pas lui qui est l'intermédiaire entre un fonds ou un corporate et puis une société qui veut lever des fonds, céder sa boîte, etc. Et donc, ils me disent que voilà, pourquoi cette société veut participer à nos événements ? Parce qu'ils veulent remonter la chaîne de valeur et être face à ceux qui potentiellement pourraient faire une opération dans les mois à venir.
D'accord. Bon.
Je dis « Ok, allez, je vous embarque en tant que sponsor sur l'événement. » Et donc, il rencontre un acteur, en l'occurrence ADM Value. Et quelques mois plus tard, ADM Value est racheté 120 millions d'euros par un gros acteur Tessie, un gros acteur du call center. Et donc, tout ça s'est fait grâce à l'événement. Donc, il a eu la démonstration parfaite que, effectivement, sympathiser avec un écosystème dans un événement, ça permet de créer un lien fort pour ensuite déployer une approche M&A. Et donc, un jour, il m'appelle, il me dit « Hervé, c'est génial tes événements ». À l'époque, il n'avait pas encore débouclé avec Tessie et ADM Value, mais il avait cette opportunité qui était tangible. Et il me dit « Hervé, viens, on fait une opération ». Alors, je me dis « Non, mais ça vaut rien les Big Boss, ça repose que sur moi ». Mais pas du tout. Pas du tout, moi je l'ai vu, j'ai vécu. Maintenant tu as des équipes.
C'est génial quand tu as la personne qui te le dit d'elle-même.
Et donc, je suis écoute, moi j'ai pas besoin de lever des fonds, je suis rentable. Oui, mais ça peut être sympa de convertir une partie de ton outil industriel, tu as des enfants. Le but c'est pas de céder, c'est que tu convertisses une partie et ça permet de pouvoir sécuriser pour tes enfants plus tard et puis de continuer l'aventure. Bon, donc je me lance dans un process et donc ça dure pas mal de temps, 9 mois. Et puis au final, c'est la petite anecdote aussi marrante, mon ex-femme, qui avait une part sur 1000, s'invite dans le process la veille au soir du closing et fait capoter le deal. Wow. Le deal ne se fait pas.
Aïe.
Et donc, quelques semaines après, j'avais un confident qui s'appelle Vincent Klingbeil, qui me dit, écoute Hervé, je suis désolé pour toi, ça a capoté, mais moi je suis en train de monter un projet avec Montefiore Investment, ça s'appelle European Digital Group, on va racheter des boîtes dans le digital et mon rêve ce serait qu'on commence par toi, parce que tu es déjà une marketplace finalement naturelle d'écosystème. Et puis lui, quand il était chez Ametix, le SN qu'il avait créé, il a fait 70% de son chiffre d'affaires grâce au Big Boss, donc pour lui c'était un rêve de pouvoir rentrer au capital des Big Boss. Et donc, c'est ce qui s'est passé. Donc, en 2019, Montefiore est rentré au capital. Entre-temps, j'ai racheté cher la part de mon ex-femme, hein, puisqu'il fallait que je puisse être libre de tous les mouvements capitalistiques. Et donc, J'ai fait une opération. Et d'accord. Je l'ai pas fait. Et d'ailleurs, c'est les meilleurs moments. Faut surtout pas faire une opération quand on en a besoin.
Oui.
Parce que quand on est au bord de la faillite et autres, on n'intéresse personne parce que c'est voilà, on a envie de voir des gens qui brillent et pas des gens qui souffrent. Et donc j'ai cédé une majorité de mon capital, 60%. Et donc 4 ans plus tard, on est toujours là. Effectivement, je suis passé de 20 personnes à 110. Mmh. On a triplé notre chiffre d'affaires.
Génial.
On a doublé nos bénéfices. On a gardé l'ADN.
C'est bien, ça a bien pris. T'as rien sacrifié. Finalement, ça a permis de grandir et de sécuriser, de faire développer. En tout cas, félicitations pour déjà les 10 ans. Alors, on arrive sur la toute fin. Donc, c'est bientôt la winter. On va en parler quelques mots.
Exactement.
Donc, c'est le vendredi prochain, dans une petite dizaine de jours.
C'est ça. Alors, quand tu diffuseras le podcast, ce sera dans 4 jours.
Et voilà.
Dans 4 jours, tu vois. Donc,
on sera J-4, comme on dit. Et donc, s'il y a des retardataires qui se présentent au nightclub d'Hervé, il va regarder, quoi.
Je vais être sélectif. Hein. Là, les décideurs, faut vraiment que ce soit du top niveau. Ouais. Les prestataires, pareil.
Et il y a la bonne accroche avec le podcast que vous avez entendu. Il va falloir séduire Hervé par une petite anecdote.
Alors, c'est souvent mes équipes qui seront en premier niveau. Mais en fait, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que un événement, c'est mouvant. Il se passe toujours des trucs dans un événement. Nous, on a eu des galères à chaque événement. On a eu grève d'avion, grève de train. Pendant la grève de train, on est parti en avion depuis Genève. Enfin bref, on a vécu tout un tas de choses. On a vécu le Covid, on a vécu un événement avec des masques, on a vécu l'annulation d'un événement. Enfin voilà, on a tout vécu. C'est très musclé, c'est très, très inspirant.
Faire flipper parfois en termes d'incertitude, parce qu'un événement, c'est quand même tout.
Le pire. Je vais te raconter le pire, c'était Winter 2021. Mmh. D'accord ? Winter 2021, le Covid est passé, en tout cas la deuxième ou troisième vague, on fait l'événement. D'accord ? Puis on ne sait pas pourquoi Castex, qui était le premier ministre de l'époque, il prend la parole le 25 novembre. Hello ! Bon, il y a peut-être un Covid qui revient, donc vous ne ferez pas de sapin, d'entreprise, de fête de fin d'année, vous ne ferez pas. Mmh. Donc il n'interdit pas, hein, parce que quand il y a l'interdiction contractuellement, c'est un cas de force majeure, et du coup, je suis remboursé de mes fournisseurs. Mais quand c'est juste une suggestion, c'est pas remboursé. Donc là, il y a le Club Med qui m'appelle, bonjour Hervé, tu maintiens ou tu annules ton événement. Mais en tout cas, moi, vu les consignes gouvernementales qui ne sont pas des consignes, qui sont juste des recommandations, je ne pourrais pas t'annuler ta prestation. Donc je me dis, est-ce que j'annule quand même, parce que au moins j'aurai des frais que je peux économiser, ou est-ce que je maintiens ? Et donc je décide avec mes équipes d'appeler tous les participants un par un. Pour leur dire, voilà, vous avez entendu Castex, vous venez pas. Vous venez pas, on va pas vous en vouloir. Vous venez vraiment et vous engagez, vous inquiétez pas, il y aura des masques, etc. Et on a 77% des gens qui ont confirmé la participation.
Ah ouais, sympa.
Donc on a aussi demandé à des prestats qui étaient gênés. Donc on a baissé en fait les deux jauges, prestats et décideurs, pour maintenir un équilibre. Et puis surtout, j'ai une idée. Moi j'ai beaucoup d'idées. Des mauvaises idées, des fois c'est des bonnes idées. Je me suis dit, tiens, pour remercier mes participants, je vais créer un vaccinodrome. J'appelle le Club Med, il me fait, non, nous, on ne veut pas prendre la responsabilité d'un vaccinodrome. Je dis, OK, vous ne la prenez pas, je vous fais une décharge, mais moi, je ferai un vaccinodrome. Et donc, déjà, il fallait trouver des doses. Mmh. Donc, je trouve des doses Moderna dans une pharmacie du coin. Alors, moi, je ne suis pas médecin, je n'ai pas le droit de récupérer des doses en quantité. Donc, il fallait que je trouve un médecin pour prescrire, récupérer les doses et puis ordonner un peu le vaccinodrome. Et donc, pareil, j'ai un copain, sa fille, elle est en études de médecine, donc j'embarque trois internes de médecine pour faire les prescriptions.
T'es rentré dans le médical, dans
le médecin, je me rappelle, le médecin, on l'avait toujours pas la veille au soir. J'étais avec mon collaborateur qui gère tous les décideurs, qui me voyait galérer, j'ai appelé tout ce que je pouvais, machin, et puis il me dit, mais tu sais, moi, mon beau-père, il est ophtalmo. Et un ophtalmo, c'est un médecin. Alors, même si c'est concentré sur les yeux, ça a quand même fait ses études de médecine et ça peut largement superviser un vaccinodrome, tu vois. Et donc, il dit, appelle-le. Donc, il dit, OK. Tu vois, pour son gendre, il a voulu faire l'exercice. Et donc, on a pu confirmer les doses, organiser le vaccinodrome. On a vacciné 128 personnes. J'étais le 128e. J'ai attendu que tout le monde se vaccine pour faire ma deuxième dose. Et je trouvais que c'était une bonne symbolique de remercier ces participants qui avaient été engagés malgré les contraintes gouvernementales. de leur proposer une dose en avant-première.
Bah, c'est fort de ton surtout inventivité, la résilience d'avoir passé quand même cette crise en étant agile. Alors la question que je pose à tous les invités, là on va aller plus sur le cinéma, je sais que t'aimes bien l'entertainment, mais un film, une série, une musique, des choses qui t'accompagnent vraiment, ça peut être d'avant ou récent.
Ce matin, j'avais une petite vidéo là, sur un réseau social de Itina, un enfant gâté. C'est sympa, Itina,
ah oui, l'enfant gâté. Claude Lelouch, hein.
D'ailleurs, ce qui est très marrant, c'est qu'on ne sait pas qui est l'enfant gâté. Est-ce que c'est celui, est-ce que c'est Belmondo ou est-ce que c'est Anconina? C'est un peu les deux.
Exact. Le fameux bonjour d'Anconina avec Belmondo.
Exactement, le bonjour ou jamais être étonné.
Ça, c'est pour toi, etc. Le bonjour dans les événements.
Exactement, exactement. Voilà, donc Itina, un enfant gâté. Le sens de la fête.
Ah oui.
Très bon film aussi, je l'avais vu avec mes enfants et Bakri. Après je suis allé le revoir avec mes équipes.
T'as dû t'identifier à Bakri dans ce film.
Évidemment.
C'est lui le rôle en marque important.
Exactement, lui c'est plutôt de l'événementiel type mariage et autres, mais il y a pas mal de similitudes. Bon, après il y a plein de films qui m'ont inspiré.
T'as vu leur dernier film de Nakash et Toledano?
Tout le monde me dit que c'est un mauvais film, mais j'ai quand même envie de le voir.
Moi je l'ai vu, je ne le trouvais pas si mauvais. Mais
une année
difficile.
Une année difficile. Bon,
le titre forcément n'est pas le plus waouh, mais il faut reconnaître qu'ils ont une patte et qui. Toi qui es tourné vers les autres.
Ce week-end, je vais aller le voir.
Je te spoil pas, mais c'est vrai qu'ils ont dans la musique, la touch, et surtout, ils ont une capacité à tourner, à filmer des personnages un peu esselés. Enfin, ils captent quand ils ont toujours une touche, ces deux mecs-là.
Ouais, bien sûr. Moi, je les connais. Enfin, je les suis depuis longtemps. Nos jours heureux, intouchables, nos enfants chéris.
En plus, ils faisaient l'écolo, ils ont un petit coup. Ils pourraient venir au Big Boss.
Non, mais par contre, invite Patrice Lecomte.
Ah bah tiens,
Patrice Lecomte qui prend la parole pour dire bah voilà, cet événement qui appeler les Big Boss font du ski.
Je vais lui écrire. On va voir. Je lui fais le mail là en sortant et on va voir ce qu'il va dire.
Peut-être il peut pas se déplacer autre, mais on lui envoie une petite vidéo.
Je vais lui écrire. On va voir. En tout cas, il répond. Je peux dire que alors je spoil pas parce que je fais pas la vie privée, mais Patrice Lecomte est une des personnes les plus réactives en termes d'email. J'ai jamais vu ça. Il répond tout de suite. Je vois la typo. Il a toujours la même typo de mail, mais il fait partie des gens vraiment vraiment pro. En musique ou un film ou série, en musique ou série qui peuvent te marquer.
Moi, j'ai beaucoup aimé Suits, les avocats new-yorkais. J'ai beaucoup aimé 24 heures chrono. J'ai beaucoup aimé Handmaid's Tale. D'ailleurs, allez, on finira là-dessus.
Moi, c'était dans le Covid que je l'ai découvert, Handmaid's Tale.
Alors, Handmaid's Tale, figure-toi que moi, j'ai... tu sais, donc la République de Handmaid's Tale, c'est la République de Gilead. Mm-hmm. D'accord. Et donc, moi, tous les lundis matins, avec mes commerciaux, on fait la revue des Gileades. C'est quoi les Gileades? C'est les deals.
C'est les femmes enceintes parmi les big boss.
Non, parce que dans Gilead, dès que tu fais un problème, dès qu'il y a un problème, on te coupe un doigt, on te pend, etc. Et donc moi, je coupe le doigt d'aucun de mes commerciaux, mais par contre, je leur demande chaque semaine de me dire quel est le deal dans leur portefeuille qui va signer cette semaine. Celui où vraiment, ils y croient, ils ont déjà eu des accords oraux, ils sont bons, etc. Et donc, c'est leur Gileade de la semaine. Et la semaine d'après, on vient vérifier quels sont les Gileades qui se sont confortés en Gilead. Quels sont les Gileades qui ne sont pas encore signés parce qu'il y a un process administratif, le DG il n'était pas là, etc. Et puis, quels sont les Gileades perdus? Alors, les signés, bravo. Les décalés d'une semaine, c'est la vie des affaires. Mais les perdus, ça pose difficulté. Parce que pourquoi le commercial, il a dit « je vais le signer, ce deal ». Il y a une mauvaise analyse, une mauvaise perception. Voilà, donc le Gilead, on a l'impression que j'ai un bocal au formol avec des doigts qui traînent, avec tous ces commerciaux qui se seraient fait couper les doigts lorsqu'un deal ne se signe pas. Voilà, mais on a gardé le terme de Gilead, et donc on suit ces Gileades chaque semaine.
Musique, à quoi tu carbures
en musique? J'aime bien les Beatles, j'aime bien la house des années 2000, époque Palace, Queen. J'ai ça dans ma voiture et mes filles, elles n'en peuvent plus, parce que c'est pas leur époque.
T'as pas connu le Palace, toi, de la Grande Bretagne?
Moi, j'ai connu le Palace de Cathy et David Guetta. Quand Cathy était directrice statistique et David était DJ là-bas.
D'accord. Bon, la grande époque. Et toute dernière question, t'as commencé à répondre, Hervé, c'est le conseil que tu donneras à une jeune qui veut se lancer en entrepreneuriat ou dans l'événementiel, toi. Bon, toi, finalement, les choses que t'aimerais transmettre.
Alors, il faut toujours privilégier un euro de chiffre d'affaires à un euro de capital. Parce que lever des fonds, en fait, c'est pas une réussite. Lever des fonds, c'est un problème. C'est une dette. Si ça cartonne, tu sais, il y a plein de licornes qui fanfaronnent, mais ils ont chacun 2% de leur boîte. Si la boîte, elle fait un jour 500 millions, ça leur fera 10 millions, ce qui est très bien. Enfin, quand tu sais que tu as créé un gâteau qui fait 500 millions et que tu en prends 10, voilà, donc en gros...
Ça, on m'a toujours dit cette phrase, 1 euro d'un client égale 10 euros d'un investisseur,
Bien évidemment. Et donc, en gros, je sais qu'en B2C, ce n'est pas évident, parce qu'il y a des moyens importants pour acheter du trafic online et autres, mais ayez toujours une activité B2B en plus, alimentaire, pour aller faire du revenu et pour pouvoir vous autofinancer au maximum. À un moment donné, vous n'y arriverez pas. Mais faites-le au maximum. Parce que si dès le départ, vous avez 30% de friends and family, vous faites une première levée, hop, vous vous rediluez de 25%. Vous faites une deuxième levée, c'est à peu près 25% par levée. Au bout de 4 levées, il vous reste 8% de votre boîte. Donc c'est quand même dommage. Alors qu'il fallait peut-être faire un peu de consulting, avoir un boulot alimentaire ou autre pour pouvoir honorer les échéances sans être dilué trop rapidement.
Exactement. Et pour ça, il faut vendre. Et pour ça, il faut aller au Big Boss.
Exactement.
Ça va faire du coup la bonne transition. Et bien Hervé, un grand merci. C'était super d'avoir ton podcast et de toutes tes anecdotes. Et on va avoir plaisir de découvrir la Big Boss bientôt winter. Et voilà. Merci beaucoup à toi.
Avec plaisir.
Pour ceux qui sont encore avec nous, merci de nous avoir écoutés. Pensez à aller mettre une note au podcast dans la section notes et avis sur Apple Podcasts. Cela nous ferait énormément plaisir et nous permettrait de continuer à faire grandir ce podcast consacré au Brain Entertainment. À bientôt pour un nouvel épisode.
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.